Merci Anne. Et oui, la grande table est installée en public dans la cour du musée Calvé à Avignon. À 12h45, nous recevrons le directeur du festival Olivier Py, ainsi que Antoine Debecq et deux membres de du collectif de la Piccola Familia pour parler de cette 70e édition et de quelques précédentes. Et puis à 13h35 environ, Loïc Corbery et Clément Hervieux-Léger de la Comédie Française seront nos invités. Mais tout de suite, il est 12h30, l'heure du journal, présenté par Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Lucille, bonjour à tous. L'Élysée annonce ce matin une tournée européenne de François Hollande. Le chef de l'État va se rendre la semaine prochaine au Portugal, en République tchèque, en Autriche, en Slovaquie et en Irlande, officiellement en vue de donner une nouvelle impulsion à l'Europe des 27, donc après le Brexit. Commentaire dans un instant de Stéphane Robert. L'Eurogroupe et l'Ecofin, qui sont réunis aujourd'hui à Bruxelles, l'Espagne et le Portugal, pourraient se voir imposer des amendes pour déficit excessif, précision de Lakshmi Lotha. Un an après la privatisation de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, les actionnaires publics refusent le versement de dividendes qui sont réclamés par le nouveau propriétaire chinois entré au capital l'an dernier. Explication d'Hakim Kasmi. Aux États-Unis, l'ancien soldat noir qui a tué des policiers à Dallas préparait une autre attaque à la bombe. Cette fois, les autorités américaines appellent au calme après l'arrestation de plus de 200 personnes lors de manifestations ce week-end suivies de la situation avec Thomas Sean Eyre. 1550 interpellations, 64 reconduites à la frontière au cours du mois de compétition du championnat d'Europe des nations de football. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, assure que l'Euro 2016 a été une réussite, en dépit, dit-il, de la menace terroriste qui restait très élevée. Nous l'entendrons. Pour donner donc à l'Europe une nouvelle impulsion après la sortie du Royaume-Uni, l'Élysée annonce ce matin même une tournée européenne du chef de l'État. François Hollande va donc d'abord se rendre au Portugal en visite officielle mardi en 8. Le 19 juillet, il va effectuer le lendemain une visite de travail dans trois autres pays, République tchèque, Autriche et Slovaquie. Et puis il y aura aussi une étape en Irlande pour une visite officielle, cette fois qui est prévue le jeudi 21 juillet. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors quelle est donc l'impulsion que François Hollande souhaite ainsi apporter à l'Europe?
Oh, eh bien, on reste sur ce qu'il avait déjà indiqué au lendemain du vote des Britanniques en faveur d'une sortie de l'Union européenne. Il veut essayer de convaincre ses autres partenaires européens qu'il faut que les Britanniques quittent l'Europe le plus vite possible pour ne pas rester dans l'ambiguïté, et que cette Europe sans les Britanniques doit recentrer ses priorités sur la sécurité, la lutte contre le terrorisme, la croissance et l'emploi, avec des efforts à faire en matière d'investissement et puis l'aide à la jeunesse. On sait qu'un certain nombre de pays ne partagent pas forcément ces analyses, en particulier sur la nécessité d'une sortie rapide des Britanniques, et donc il prend son bâton de pèlerin, François Hollande, pour tenter de rallier à ses vues les récalcitrants et les hésitants. Alors maintenant, pourquoi ces pays-là? Eh bien, ce sont des pays où le président français ne s'est pas encore rendu, nous indiquons du côté de l'Élysée. Et que faut-il attendre concrètement de cette tournée européenne? Pas grand-chose pour le moment, rien de tangible. Ce sont des échanges, des discussions qui vont avoir lieu, et il s'agit de convaincre les uns et les autres en vue d'un sommet européen qui aura lieu à Bratislava mi-septembre. Sommet au cours duquel les 27 pays de l'Union vont essayer d'y voir un peu plus clair sur ce que peut être leur avenir sans le Royaume-Uni. Vous savez, en matière de diplomatie, explique un conseiller du président, il faut se hâter à petits pas, on pratique la stratégie du bouton de chemise l'un après l'autre et on verra bien ce qu'il en sortira.
Merci Stéphane Robert. Theresa May, qui est la candidate des conservateurs favorite pour prendre la succession de David Cameron, affirme ce matin qu'il n'y aura pas de tentative pour rester au sein de l'Union européenne. Brexit signifie Brexit, dit-elle, et nous en ferons un succès. Quant à David Cameron lui-même, il assure qu'il est dans l'intérêt national du Royaume-Uni de demeurer proche de l'Union européenne. Europe encore avec Michel Sapin qui soutient le Portugal. Avant son départ pour des réunions de l'Eurogroupe et de l'Ecofin à Bruxelles, le ministre de l'économie se déclare opposé à ce que le Portugal fasse l'objet de sanctions trop importantes de la part de la Commission européenne, car il a fait, le Portugal, d'énormes efforts pour respecter ses engagements. La Commission a ouvert, on le sait, la semaine dernière, une procédure pour déficit excessif contre l'Espagne et le Portugal, qui risque de se voir donc infliger des amendes avant la fin du mois de juillet. Le président de l'Eurogroupe s'est montré très ferme la semaine dernière. Si je regarde les chiffres, dit-il, je dois vraiment conclure que l'Espagne et le Portugal ont fait trop peu. Par conséquent, il doit y avoir des sanctions. Le Premier ministre portugais, lui, affirme que l'application de sanctions ne doit pas être automatique. On est en ligne avec Lakshmi Lotha. Bonjour.
Bonjour.
À quoi faut-il s'attendre pour cette réunion aujourd'hui ?
Il est important que les États membres appliquent les règles, c'est ce que dit le vice-président de la Commission européenne. Le Portugal était censé ramener son déficit à 2,5% de son PIB en 2015. Il s'est élevé à 4,4%. L'Espagne a, elle, affiché l'an dernier un déficit de 5,1% alors que la Commission le réclamait à 4,2%. La règle, c'est le respect du pacte de stabilité et de croissance. La Commission est dans son droit, a dit ce matin le ministre français des Finances. Mais pour Michel Sapin, le Portugal ne mérite toutefois pas qu'on lui applique une discipline exagérée. Pour les pays du Nord comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, les règles sont les règles. L'Espagne et le Portugal risquent une amende si les ministres des Finances européens suivent les conclusions de la Commission. Son montant peut aller jusqu'à 0,2% du produit intérieur brut. Nous restons confiants que cette sanction ne supposera pas une amende pour l'Espagne, a espéré la vice-présidente du gouvernement espagnol. Ce montant pourrait être aussi purement symbolique. Il peut être réduit ou même annulé en raison de circonstances économiques exceptionnelles ou si les pays justifient leur dérapage et promettent de mieux faire. Ces décisions se prennent en effet quelques semaines seulement après le séisme provoqué par le Brexit en Europe et la crainte d'une contagion eurosceptique. La Commission européenne doit trouver la voie entre rigueur et flexibilité.
Merci beaucoup, Lakshmi Lotha, en direct de Bruxelles. Et tout le week-end, une pluie de critiques s'est abattue sur l'ancien président de la Commission, José Manuel Barroso, qui a annoncé qu'il rejoignait la banque d'affaires Goldman Sachs. Le Premier ministre, celui qui était Premier ministre du Portugal de 2002 à 2004, qui a occupé donc la présidence de la Commission pendant 10 ans, 2004-2014, eh bien la banque Goldman Sachs déclare l'avoir engagé pour la conseiller, alors que la sortie du Royaume-Uni de l'Union devrait avoir des impacts évidemment sur le monde financier. Parmi les réactions ce week-end, on aura noté celle du secrétaire d'État au commerce extérieur qui affirme desservir les citoyens, se servir chez Goldman Sachs. Barroso représente représentant indécent d'une vieille Europe. La Commission l'a toutefois défendu en rappelant qu'il n'avait enfreint aucune règle puisque au-delà de 18 mois après la fin de leur mandat, rien n'oblige les anciens membres de la Commission à rendre des comptes. Monsieur Barroso lui-même d'ailleurs déclare ne pas voir où est le problème. Ça, c'est ça qui pourrait peut-être être le problème, Antoine Denecher.
Bah oui, de toute façon, il y a toujours un problème, semble répondre José Manuel Barroso dans l'hebdomadaire portugais Expresso. Si l'on reste dans la vie politique, on est critiqué pour vivre au crochet de l'État. Si l'on va dans le privé, on est critiqué pour tirer profit de l'expérience acquise dans la politique. Et la Commission, d'ailleurs, ne dit pas vraiment autre chose via son porte-parole. C'est légitime que des personnes dotées d'une grande expérience continuent à jouer des rôles de premier plan. Mais en France, et en Europe, en France particulièrement, personne n'a osé défendre ce pantouflage qui ne va pas améliorer l'image désastreuse des institutions européennes dans l'opinion. François Hollande, qui avait décoré Barroso en 2014, il avait fait officier la Légion d'honneur, n'a aucun commentaire à faire, c'est ce que nous explique l'Élysée ce midi. Et même un pro-européen convaincu, comme le centriste Jean Arthuis, ironise. Barroso a de la suite dans les idées, il veut comprendre comment Goldman Sachs l'a enfumé sur la sincérité des comptes publics de la Grèce, car non seulement la banque est impliquée dans la crise de 2008 et dans plusieurs scandales, mais elle aurait aussi aidé le gouvernement avant de Tsipras à maquiller ses comptes quand Barroso dirigeait justement l'exécutif européen. Mais ce dernier, très à l'aise, affirme dans le Financial Times qu'il a été très impressionné, je cite, par l'engagement de Goldman à se mettre aux standards éthiques les plus élevés et que son rôle, en plus de gérer l'après-Brexit, eh bien, inclura le renforcement de la culture de l'intégrité chez Goldman, fin de citation, comme une nouvelle illustration du fossé énorme entre le monde des financiers, très lié au pouvoir, on le voit, et celui des citoyens.
Antoine Denecher, merci. L'État va organiser un nouveau tour d'enchères en vue de la privatisation des aéroports de Nice et de Lyon, après avoir retenu pour chacun d'eux deux candidats à l'issue des offres fermes. La privatisation des aéroports suscite parfois des inquiétudes. Exemple, un an après la privatisation de celui de Toulouse-Blagnac, les actionnaires publics refusent en effet le versement de dividendes qui sont réclamés par le nouveau propriétaire, qui est un propriétaire chinois et qui était entré au capital l'an dernier, Hakim Kasmi.
Oui, Antoine, un quasi-Europe, c'est son nom, qui détient en fait 60% de l'aéroport de Toulouse, réclame en fait le versement de 17,5 millions d'euros à tous les actionnaires, dont la moitié rien que pour lui. Une somme qui serait prélevée directement sur la cagnotte de l'aéroport, ce que contestent les collectivités locales, d'où eh bien, le report pour la seconde fois de cette Assemblée Générale. Ces collectivités locales, elles estiment eh bien, que les réserves financières, acquises depuis des années, ne doivent pas servir les actionnaires, mais au développement de l'aéroport de Toulouse, mais aussi à son autonomie. Pour calmer le jeu dans ce dossier très sensible, qui revêt aussi un caractère économique et diplomatique entre la France et la Chine, car rappelons-le, hein, si l'Agence des participations de l'État qui dépend de Bercy a bien accepté l'offre chinoise l'année dernière et le rachat de l'aéroport de Toulouse en partie, eh bien c'est en grande partie parce qu'Airbus est le principal, pour principal client, pardon, eh bien la Chine. L'avionneur a également aussi ses principales chaînes d'assemblage aux pistes de l'aéroport de Toulouse. Du coup, eh bien, pour ne pas froisser les actionnaires chinois, Anne-Marie Hydrac, la présidente du conseil de surveillance de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, a préféré reporter l'Assemblée Générale, mais sans donner de date précise. Enfin, pour calmer les esprits, celle qui fut entre autres aussi patronne de la SNCF, eh bien, a accepté que l'État qui détient encore 10% du capital de l'aéroport puisse avoir une minorité de blocage.
Hakim Kasmi, merci.
Il est 1h20. Aux États-Unis, les forces de l'ordre ont procédé à plus de 200 interpellations dans plusieurs villes. Lors de manifestations ce week-end, les tensions entre noirs et policiers restent vives après le meurtre jeudi à Dallas de 5 policiers par un ancien soldat noir qui voulait venger les noirs victimes des violences policières. Selon les autorités, ce même homme préparait une attaque très importante à la bombe qui aurait été dévastatrice. C'est ce qu'affirment en tout cas ces mêmes autorités. Thomas Schoner, vous avez ce matin vu la presse américaine.
Oui, c'est, des informations. C'est le chef de la police de Dallas qui l'affirme. De grandes quantités d'explosifs ont été trouvées au domicile du tireur après la tuerie et les autorités sont persuadées que Micah Johnson avait, je cite, d'autres plans. Dans une interview à CNN, le chef de la police raconte par ailleurs comment le tireur a joué avec les forces de l'ordre pendant l'attaque. Il aurait chanté, demandé combien de policiers blancs il avait tué. Pour en savoir plus sur Micah Johnson, plusieurs médias américains ont décortiqué notamment son compte Facebook. Le jeune homme y affichait clairement sa sympathie pour les mouvements de défense des Noirs. Certains plus obscurs que d'autres, comme l'African American Defense League, la Ligue de défense africaine-américaine, un groupuscule au discours raciste, haineux, qui poste notamment des photos d'armes à feu entassées par centaines. Mais rien n'indique pour le moment que Micah Johnson ait fait partie de telle ou telle organisation. Le site d'information The Daily Beast affirme même que l'ancien militaire a été blacklisté de par son passé. Micah Johnson a été accusé d'harcèlement sexuel lorsqu'il servait en Afghanistan. Il a ensuite été disculpé, mais ces accusations l'auraient empêché de rejoindre les mouvements Black Power de la région de Dallas. Le profil de Micah Johnson serait donc plutôt celui d'un solitaire, quelqu'un qui assiste à des meetings, qui se renseigne sur Internet, des sphères où il a entretenu son racisme anti-blanc, racisme attisé un peu plus par les meurtres de noirs par des policiers blancs.
Thomas Schoner, merci. La Tour Eiffel fermée au public aujourd'hui suite aux incidents hier soir entre supporters et forces de l'ordre en marge de la finale du championnat d'Europe des Nations de football. Au total, une quarantaine de personnes interpellées hier soir à Paris et aux abords du Stade de France à Saint-Denis. Le ministre de l'Intérieur donne ce matin des chiffres pour l'ensemble de la compétition. 1550 interpellations, 64 reconduites à la frontière. Pour Bernard Cazeneuve, 7 euros a été une réussite.
Dans les semaines qui ont précédé le déroulement de cette compétition de visibilité mondiale, certains esprits s'étaient employés à tout dénigrer de l'organisation mise en œuvre, allant jusqu'à laisser planer le doute sur la capacité de notre pays à organiser un tel événement dans un contexte de menace terroriste particulièrement élevée. La démonstration a pu être faite que dans l'union de toutes ces forces, et ça compte lorsqu'on est face à de tels défis, et grâce à la mobilisation de tous ces services, qui ont été guidés par le seul souci de bien faire, notre pays a pu demeurer tel qu'en lui-même, c'est-à-dire une grande nation, capable d'être à la hauteur des défis qui se présentent à elle.
À la propos recueillie par France Info ce matin, l'équipe de France est reçue tout à l'heure à l'Elysée. L'équipe du Portugal est attendue à Lisbonne en début d'après-midi. Le président va leur décerner le titre de commandeur de l'ordre du mérite. Nous sommes les meilleurs d'Europe, a-t-il affirmé. Nous avons montré de quoi nous sommes faits, résistants unis, capables de surmonter toutes les difficultés. On retrouve à Lisbonne Marilyn Darcy.
On vous l'avait dit, elle serait à nous, la coupe. Les Portugais n'ont jamais dévié de leur certitude et malgré la sortie de Ronaldo pour blessure en finale de l'Euro à Paris, ils n'ont jamais douté. Sur un nuage de conviction et de détermination, ils ont fêté comme il se doit la victoire, bruyamment et longuement. La sélection est attendue à Lisbonne où une cérémonie officielle aura lieu au palais présidentiel de Belém. Le président Marcelo Rebelo de Sousa, fervent supporter de la sélection et véritable amateur de foot, va remettre l'insigne du mérite aux 23 joueurs et responsable de l'équipe. Les footballeurs auront ensuite rendez-vous avec leurs supporters à Alameda, où se trouve l'une des deux fan zones de Lisbonne. Sacrifice, souffrance et larmes sont les mots qui reviennent souvent au vu d'un tournoi difficile et d'un match final dur et intense. Les Portugais se sont identifiés à leur équipe qui ces dernières années s'est hissée au rang des meilleurs mondiales. C'est à l'image du pays, plus tout à fait celui des maçons et des concierges, que les Français moquent trop souvent. La Coupe est historique, la première pour le Portugal, avec des retombées économiques qui sont estimées à 700 millions d'euros, non négligeables pour un pays qui souffre encore de la crise. L'Union européenne envisage d'ailleurs de sanctionner le pays pour déficit excessif. Mais pour l'instant, les Portugais sourient et s'abandonnent à leur satisfaction.
Voilà, merci beaucoup Marilyn Darcy. La météo, dégradation orageuse sur une large bande centrale, de nombreux passages nuageux ailleurs et il y aura quand même davantage de soleil sur la pointe sud-est, des températures de 19 à 34 degrés. C'est la fin de cette édition réalisée avec François-Charles Domergue. Le prochain journal est à 18h et on retrouve à Avignon, puisqu'il est 1h moins le quart maintenant, Lucille Comeau pour la grande table d'été.